Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflits. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Je vous rappelle également la parution récente de nos numéros, notre numéro classique est en kiosque consacré à la mer de Chine et notre nouvelle hors-série sur l'armée de terre. Nous avions consacré l'année dernière un hors-série à l'armée de l'air. Cette année, nous traitons de l'armée de terre. Tous ces numéros sont à retrouver en kiosque et sur notre boutique en ligne revueconflit.com. Et puis, comme chaque semaine, je ne peux que vous inviter à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné ou à abonner des proches, puisque Noël approche. C'est un beau cadeau de Noël aussi que d'offrir des abonnements à Conflits. En vous abonnant, vous nous permettez de nous développer, vous nous permettrez de continuer à vous proposer du contenu que nous espérons riche et intelligent, et aussi du contenu en accès libre, comme ces podcasts que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Alors cette semaine, je vous propose de quitter un petit peu les sujets militaires, guerriers, les sujets de géopolitique classique. On aime bien à Conflits traiter aussi de sujets un peu plus, je ne vais pas dire légers, parce que ce sont des sujets qui sont importants, des sujets culturels, des sujets littéraires. Et cette semaine, nous allons aborder la vie d'un écrivain qui parlera peut-être, je vais dire aux plus anciens, mais en tout cas à ceux qui ont quelques années derrière eux, et dont pour les plus jeunes, le nom est probablement inconnu, donc ce sera l'occasion, je l'espère, de faire connaissance avec lui. Cet écrivain, il s'agit de Christian Millau, alors qui est très connu pour son guide gastronomique, Le Goût et Millau, qui a fait le bonheur de la gastronomie française et qui a contribué à ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine, nous allons y revenir. Mais Christian Millau était aussi un écrivain de renom, un écrivain de talent, et nous allons revenir sur cette partie de son œuvre qui est peut-être moins connue et à laquelle il a consacré une grande partie de sa vie. Pour parler de Christian Millau, je reçois cette semaine François Jonquet. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Conflit. Vous avez connu Christian Millau pendant plusieurs années, avec qui vous avez notamment cofondé le Prix des Hussards, mais vous êtes secrétaire général du Prix des Hussards. Et vous avez contribué à publier un livre aux éditions du Rocher, Christian Millau, une vie au galop, où intervient dans cet ouvrage plusieurs auteurs qui parlent de Christian Millau. On trouve également des documents originaux, des photos, des lettres qui permettent d'avoir une vie, enfin de présenter la vie complète de cet auteur. Alors peut-être commençons par ce qui est le plus connu de Christian Millau, parce que c'est la gastronomie, parce qu'il y a consacré une partie importante de sa carrière professionnelle avec son comparse le Goût et Millau. Ça a été le guide de référence pendant des décennies, c'est eux qui ont fait un peu la pluie et le beau temps dans le monde de la gastronomie. Comment leur est venue l'idée de créer ce guide et en quoi était-il nouveau ou novateur quand il a été lancé?
En fait, ils ont donc l'un et l'autre se sont bien rencontrés puisqu'Henri Goût est complété à merveille Christian Millau. Et ils ont donc eu l'idée de rafraîchir un petit peu la cuisine française qui est quand même un de nos fleurons nationaux. Et notamment en créant donc ce concept de nouvelle cuisine, ces 10 commandements de la nouvelle cuisine qui ont eu un succès énorme et qui ont aidé effectivement la renommée et la reconnaissance de la gastronomie française à travers le monde. Et ça a été vraiment une étape décisive. Il a donc, avec plusieurs chefs, notamment donc Guy Savoie qui est toujours de ses amis, les frères Troisgros et ainsi de suite, donc des gens donc qui sont aujourd'hui aussi célèbres d'une certaine façon dans le monde que Victor Hugo ou Alexandre Dumas. Et donc, il a créé et initié ce changement en essayant de découvrir, d'apporter aussi une touche littéraire, un petit peu, qui complétait assez remarquablement le guide Michelin, une touche littéraire pour justement inciter les gens à des découvertes, puisque c'était ça qui a vraiment caractérisé Christian toute sa vie. Comme on en parlera, une vie extrêmement riche, comme vous l'avez déjà cité, c'est vraiment la curiosité. Et donc, cette curiosité l'a amené à faire des découvertes de par le monde entier.
Quels étaient les principaux points de la nouvelle cuisine? En quoi est-ce qu'elle se distinguait de la cuisine d'avant, l'ancienne cuisine finalement?
En fait, il a édicté plusieurs règles, et donc vous les retrouvez notamment dans le livre. Donc, notamment, il a demandé de réduire les temps de cuisson ou d'éliminer les aliments un petit peu trop riches, parce qu'à la limite, des fois, la nourriture française pouvait être roborative au noble sens du terme d'ailleurs, mais c'est vrai que ça pouvait nuire à sa qualité d'une certaine façon. Et donc, il a essayé de réfléchir et de repenser un petit peu à cette cuisine. Il a été suivi par une jeune génération de chefs qui maintenant est étoilée, auréolée de gloire dans le monde, et qui ont donc redonné et redécidé d'une certaine façon la gastronomie à la française.
C'était aussi l'idée de présenter le produit tel qu'il est, avec moins de graisse, moins de sauce, moins d'après, mais côté un peu plus naturel des produits, des viandes, des légumes.
Complètement. Je sais que vous connaissez parfaitement ce domaine-là. Et c'est vrai que c'était tout à fait ça. C'était de redonner sa noblesse au produit en tant que tel, ne pas le masquer derrière des artifices qui, justement, en obéraient un petit peu la saveur ou, justement, les côtés cachés. C'est de lui redonner toute sa fraîcheur, toute sa primauté dans le plat, en fait. Alors qu'avant, on avait plutôt tendance à le perdre et en perdre, justement, la substantifique moelle, si j'ose dire.
Ce qui est impressionnant dans cette nouvelle cuisine, c'est qu'il y a eu un grand succès en France. Et puis, vous l'avez dit, ces chefs sont exportés. Ils ont été imités, repris au Japon, aux États-Unis. Ça, à un moment donné, ça a donné le là en matière culinaire à travers le monde.
Ah, complètement. Ça a eu un retentissement terrible. Et d'ailleurs, c'était Christian Millau et Henri Gour ont été des rares Français à faire la couverture de Time Magazine, ce qui est quand même pas rien. Effectivement, donc, il a créé une sorte d'appel d'air, et on retrouve notamment beaucoup de chefs français se sont expatriés pour justement porter la bonne nouvelle, si j'ose dire, dans le monde entier. Et après, bien entendu, ils ont été suivis par des chefs talentueux, parce qu'il y a des chefs talentueux dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Japon ou dans tous les pays d'Europe.
Et ces chefs, ils ont eu après des élèves, des disciples, donc c'est des générations, enfin des enfants, des petits-enfants,
non, mais complètement. Et ils célébraient la créativité et le retour, donc, justement, au produit et à la mise en musique idéale, quasi parfaite du produit, pour lui donner toute sa richesse, toute sa noblesse.
Alors dans l'ouvrage, justement, vous avez publié la couverture du Time. On voit Henri Gault et Christian Millau entourés de camembert, de fromage, enfin de produits raffinés. C'était un bel hommage, évidemment, du monde anglo-saxon à ce qu'ils ont fait. Ce que l'on constate aussi quand on parcourt votre ouvrage, c'est que Christian Millau a connu des gens variés, enfin, une vie extrêmement riche. Alors, on a des lettres, des photos, on voit avec Roger Nimier, Léo Thau, Paul Morand. C'est quelqu'un qui a été présent dans tous les milieux littéraires des années 1950-2010 jusqu'à son décès, et qui a connu tous les grands écrivains, tous les auteurs qui ont compté.
Oui, complètement. Il a eu une grande chance dans sa vie, c'est qu'il est un jeune journaliste. Il a commencé, il a rencontré donc Roger Nimier, qui était le grand écrivain français que tout le monde connaît. Il a donc collaboré avec lui à la revue, notamment Opéra, ce qui lui a permis de rencontrer donc tous les auteurs à l'époque, certes quelquefois un peu sensibles ou accompagnés de quelques relents de souffle pour certains, dont Ferdinand Céline. Mais effectivement, il a pu lier ainsi des relations avec tous les grands écrivains français d'alors, que ce soit donc Chardonne, Paul Morand, Félicien Marceau, qui restait un de ses grands amis, ainsi de suite, donc Paul Léo Thau. Et donc, du coup, il a pu justement créer ce vivier de connaissances. Et c'est ce cas de curieux chez lui, d'une certaine façon. Il a été... Alors là, on est vraiment à l'époque où il n'a toujours pas touché à la cuisine, parce qu'il a vraiment commencé sa carrière gastronomique dans les années 65-70. Mais avant, il est à la fois journaliste littéraire et journaliste tout court, au Point, au Monde, et ou à l'Express. Et donc, du coup, à cette époque-là, il a, d'une certaine façon, il comprend un petit peu à l'avance le rôle que pourrait tenir, justement, le fait de garder des documents, de prendre des photos. Alors, d'une certaine façon, il a créé les selfies, parce qu'on le voit pris en photo avec Jean Giono, on le voit pris en photo avec Marcel Aimé, et ainsi de suite. Donc, c'est de nos jours, c'est quelque chose qui est courant, mais à l'époque, c'était beaucoup plus rare. Et donc, grâce à ça, on a des documents exceptionnels, d'une certaine façon. Il pensait à sa renommée de son vivant.
Il a le sens de garder des choses, enfin des archives. Alors c'est très précieux après quand on veut faire un livre sur sa vie. Et effectivement, là j'ai une photo de Christian Millau et Paul Bocuse sous les yeux. Paul Bocuse avec son épagneul breton et sa veste de cuisine de meilleur ouvrier de France. Et puis il y a beaucoup d'autres photos. C'est aussi hier un élément spécifique à la France d'avoir mêlé l'art de la table et l'art de la littérature.
Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains qui se sont tournés vers la gastronomie à un moment, ça c'est exact. Mais c'est vrai que la France, alors pour moi, et je pense que c'est partagé par beaucoup d'entre nous, c'est une association, un mélange entre guillemets entre certains plaisirs. Et il y a le plaisir de la table qui est comme substantiel à la France, mais il y a également la littérature. Et c'est vrai que d'une certaine façon, il a mélangé, il a créé une sorte d'alliance optimisée, si j'ose dire, pour justement rassembler des choses qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément nature à marcher de pair. Mais c'est vrai que pour un Français, le plaisir de la littérature, le plaisir de la table sont quand même des plaisirs essentiels dans sa vie.
Il y a d'autres grands guides gastronomiques. On pense évidemment au guide Michelin, qui est un des premiers d'ailleurs. Il y a eu Kurnonski et le club des 100. Comment est-ce qu'il s'inscrivait aussi par rapport à eux? Qu'est-ce qu'il a apporté de différent? Il fallait aussi se distinguer par rapport à ce qu'il pouvait faire. Quelle était, on va dire, la touche particulière de Go et Millau, enfin de guide Go et Millau?
Alors, la touche que Christian a apportée, et c'est vrai que c'est lié justement à sa première vie de journaliste et de critique littéraire, c'était une approche beaucoup plus littéraire d'une certaine façon. On avait l'impression qu'à chaque fois, sans dénigrer quelquefois la qualité exceptionnelle du guide Michelin ou d'autres d'ailleurs, mais il apportait une touche littéraire qui, d'une certaine façon, il racontait une histoire. C'est-à-dire que pour vous donner envie de découvrir une table, d'une certaine façon, il la décrivait comme s'il vous racontait un conte, une petite histoire. Et c'est vrai que ça donnait une touche un petit peu différente, et notamment dans la revue Go et Millau qui existait dans les années 80. À chaque fois, il faisait une chronique, alors qui était, je crois, hebdomadaire ou après, avant de devenir mensuel. Et on retrouvait effectivement cette plume, qui est une plume d'un écrivain, d'un bon écrivain, parce qu'il a été formé à très bonne école, et qui donnait justement ce côté un petit peu surprenant, parce qu'à la limite, ce n'était pas froid. Alors, je ne veux pas critiquer, parce qu'effectivement, une description d'un restaurant peut être froide.
C'est pas simple à faire.
Voilà.
De dire que la table est bonne et que c'est bien cuit, c'est sûr que...
Voilà, ça peut laisser... Alors, lui, il y mettait des adjectifs, il y mettait de la passion, il racontait des petites choses, un petit peu comme Antoine Blondin dans ses chroniques du Tour de France, racontait d'autres choses, parlait de littérature, mêlait des sujets différents, et donc, d'une certaine façon, arrivait à magnifier un petit peu le sujet qu'il présentait.
Donc, c'est vraiment cette alliance de la table et des lettres qu'il a réussi, y compris dans ces choses apparemment simples, mais toujours très compliquées à faire, des chroniques gastronomiques.
Oui, complètement, vous avez tout à fait raison.
Et est-ce qu'il y a aussi la volonté de faire découvrir des talents, des restaurateurs, des vignerons, des artisans? Le guide a aussi contribué à ça?
Ah, bien sûr, et c'était sa vocation aussi première, et comme je vous le disais, sa plus grande qualité, certainement. C'était la curiosité. Donc, il était prêt à traverser de nuit à pied sous une pluie battante une contrée sauvage pour trouver un petit établissement dont on lui avait parlé pour justement goûter, le rencontrer. Et quand il venait dans ces établissements, il prenait le temps d'aller dans la cuisine, de discuter avec les gens. C'était un amoureux donc des produits, et ça se retrouve dans son guide, et donc des découvertes. Donc il était toujours prêt à goûter un nouveau vin, et s'il lui plaisait, parce qu'il avait un goût excellent, ce qui était utile dans sa profession, vous me direz, effectivement, il n'hésitait pas, il en tombait presque amoureux, donc du coup, il n'hésitait pas à en parler, à s'enthousiasmer pour lui, et donc à essayer de le faire connaître à d'autres, et donc à transmettre. C'était quelqu'un qui a été un messager de la gastronomie aussi.
Et puis, ce duo qu'il a formé avec Henri Gault a contribué aussi, peut-être, à donner une nouvelle approche de la gastronomie à une époque où on a eu les années 70-80, gastronomie industrielle, moins de temps aussi pour cuisiner, apparition de plats préparés, qui ont d'ailleurs leur intérêt aussi, et qui parfois sont de très bonne qualité, mais ils ont participé aussi à ce nouveau monde qui est en train de se faire, transformation de la table, du temps passé à table.
Bien sûr, bien sûr. Il y a un film, alors en vous écoutant, alors qui n'a pas de rapport direct, même si le rapport indirect est très fort, c'est L'aile et la cuisse, avec donc Coluche et Louis de Funès, qui justement stigmatise un petit peu cette opposition d'une gastronomie donc faite à la va-vite et qu'on retrouve sur les chaînes d'autoroute.
Tricastel.
Voilà, Tricastel, voilà. Et donc la gastronomie à l'ancienne, dans laquelle justement, effectivement, Louis de Funès, d'une certaine façon, est un petit peu un copier-coller de ce que Christian Millau était. Il va découvrir des choses, ainsi de suite. Alors, bien entendu, le cinéma a rajouté des artifices, ce qui est naturel. Mais c'est un petit peu cette dualité, et c'est ce monde nouveau qui apparaissait, en fait, dans les années 70, où la vie moderne que nous connaissons commençait petit à petit à prendre le pas sur la vie traditionnelle qui était la nôtre alors, avant.
Et puis, quand on parle de gastronomie, on pense évidemment aux bistrots, aux restaurants. Alors, les mois qui se sont écoulés... nous en ayant privé, on a aussi redécouvert peut-être l'intérêt que ça avait. Ce sont aussi des lieux pas simplement où on se nourrit, mais aussi des lieux de rencontre, des lieux qui chacun raconte une histoire par la décoration, par le caractère également des tenanciers. Ça aussi, ce sont des choses qu'ils ont cherché à mettre en avant ?
Ah, bien sûr, la convivialité était essentielle parce que c'est le plaisir de la table ne serait rien. Alors, bien entendu, la qualité des mets que vous pouvez déguster, il y a bien entendu les boissons et la France est un pays riche en vin, comme vous le savez. Mais il y a aussi ce caractère, ce cadre, parce qu'un cadre, c'est toute une histoire. C'est une chaleur, c'est une équipe qui vous reçoit, c'est une complicité qui s'établit avec les années. C'est aussi des habitudes qu'on aime bien retrouver, c'est des personnes qu'on aime bien recroiser dans ces restaurants. Et d'une certaine façon, le bistrot ou le restaurant devient un second chez soi, une sorte de club. Alors, les Anglais ont des clubs pour se retrouver. Nous, on a limite, on a nos bistrots. Et justement, on a beaucoup souffert de cette période de confinement parce qu'on perdait cette convivialité qui est essentielle à l'âme française et à son plaisir, à son bonheur de vivre.
Alors, abordons la question de la littérature, puisque vous avez cofondé avec lui le prix des Hussards. Qu'est-ce que c'est ce prix exactement et quelle est sa spécificité par rapport aux autres prix français ?
Alors, les Hussards, c'est un mouvement littéraire qui est né dans les années 50, qui stigmatisait, entre guillemets, à l'époque, ce qu'on appelait des écrivains de droite, puisque la littérature, à l'époque, était chapeautée par Sartre et certains idéalistes, pour pas utiliser d'autres termes. Et donc, c'est vrai qui dictait une certaine ligne de conduite, qui était ce qu'elle était. Et donc, les Hussards ont apporté un petit peu de fraîcheur. Et c'est vrai qu'on a un article fameux opposé, donc les grognards, qui étaient donc les tenants donc d'une littérature sous contrôle, aux Hussards, qui sont des cavaliers, donc un peu foufous, qui eux, en fait, aimaient l'élégance, aimaient le style. La politique, ils n'en faisaient pas, ils avaient certainement tous des opinions politiques, mais eux, ce qui les intéressait, c'était la qualité d'un livre. Et ils se sont battus pour Aragon, quand Aragon faisait un très bon livre, à la limite, le fait qu'Aragon soit communiste, ils s'en fichaient un petit peu. Ils se battaient parce que le livre était bon, qu'ils le trouvaient bon, ils se défendaient avec style et avec élégance. Et c'est un petit peu ça, les Hussards, c'est-à-dire c'était une liberté, une indépendance à la française qui va au-delà des règles qu'on veut bien nous imposer ou nous créer. Et donc, c'est une liberté et avant tout une indépendance de l'esprit.
C'est Roger Nimier, peut-être, qu'on est la principale figure. D'ailleurs, ça fait vraiment associer un de ses livres, le Hussard bleu.
Complètement. C'était Roger Nimier, le maître, bien entendu, et le chef de file des Hussards. Donc, il y a un ami de Christian avec le Hussard bleu qui a aussi donné l'idée de ce titre des Hussards. Et par la suite, donc, Antoine Blondin, son ami, Jacques Laurent, Michel Déon, mais et d'autres également dont on parle moins, comme Michel Mort par la suite, ou Félicien Marceau, se sont un petit peu greffés là-dessus, ou des anciens dont on parle encore moins, comme celui qui a écrit le Caporal épinglé, son nom m'échappe à l'heure actuelle. Mais bon, ça me reviendra. Donc il y avait beaucoup d'auteurs qui étaient des auteurs en fait libres, et qui voulaient justement exprimer leur art sans appartenir à quelque paroisse que ce soit, et puisqu'à l'époque, appartenir à une paroisse spéciale pouvait vous aider dans votre carrière.
D'ailleurs, plusieurs ont été élus à l'Académie française, Michel Déon par exemple, Jacques Laurent aussi.
Bien sûr.
Donc il y a eu une reconnaissance institutionnelle pour des gens qui étaient un petit peu francs-tireurs. Enfin, l'Académie a été aussi un lieu où ils se retrouvent autour des lettres et de la table, donc ils n'étaient pas trop changés.
Non, mais
changés,
bien sûr. Et puis l'Académie des années 70, c'était une académie qui avait encore un côté conservateur qui était très 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 fort, parce qu'effectivement, on y retrouvait Paul Morand, on y retrouvait Félicien Marceau, donc on retrouvait des gens qui étaient ancrés d'une certaine façon, chose qui a un petit peu eu tendance à disparaître dans les années suivantes.
Tous ces écrivains ont souvent des caractères assez forts et des égos assez marqués. Christian Millot a réussi à concilier un peu les uns les autres, parce que c'est jamais facile de faire une sorte de synthèse entre chacun, où la littérature, c'est aussi exprimer des sentiments, donc quand on exprime des sentiments, on est forcément toujours un petit peu à vif, ou un peu jaloux aussi des autres. L'art du journaliste littéraire, c'est d'arriver à peut-être arrondir un peu les angles et à concilier des caractères qui sont parfois très forts.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Alors, Christian, dans sa jeunesse, quand il a fait la connaissance de tous ces génies littéraires français, avait une grande chance, c'est qu'il n'était pas encore écrivain. Donc c'est vrai qu'il était critique littéraire, donc il pouvait dire tout le bien qu'il pensait de ces livres-là, mais il n'était pas un de leurs compétiteurs directs. C'est-à-dire que Christian est devenu écrivain sur le tard, mais à l'époque, quand effectivement Roger Nimier ou Jacques Laurent écrivaient, effectivement l'un et l'autre ne s'appréciaient que modérément, parce qu'effectivement ils étaient rivaux littéraires, mais ce n'était pas le cas de Christian, et donc du coup il pouvait lier amitié avec tout le monde, parce que lui son rôle à la limite quand le livre était bon, c'était de dire voilà, le livre est bon, il expliquait pourquoi avec charme, avec élégance, et donc ça peut expliquer aussi pourquoi il a pu se faufiler et tenir aussi longtemps à côté de monstres sacrés qui effectivement se regardaient entre eux parfois d'un seul œil.
Ces critiques littéraires, et puis dans quels journaux
Alors dans Opéra, notamment dans Art également. Donc c'est des journaux qui ont disparu, qui étaient dans les années 50, donc financés quelquefois par Roger Nimier, Jacques Laurent également en avait créé. C'était un temps un petit peu béni où justement les écrivains n'hésitaient pas à investir, à se ruiner. Jacques Laurent qui était un auteur remarquable, qui s'est ruiné plusieurs fois pour justement défendre la littérature telle qu'il la concevait. Donc ça avait une sorte de panache qui était tout à fait merveilleux, et pour moi effectivement ça me fait rêver de justement cette folie. On donne la préséance à quelque chose qui vous tient à cœur, et on prend tous les risques pour ça. C'est le côté hussard, mais également mousquetaire. Moi, à la limite, quand on parle hussard, je pense surtout aux mousquetaires. D'une certaine façon, ils ont donné vie à D'Artagnan ou à d'autres qui nous ont fait rêver dans nos zones françaises.
Ce qu'il y a toujours d'agréable dans une biographie, c'est qu'il y a l'histoire de la personne, et puis il y a aussi l'histoire du temps dans lequel la personne a vécu. Et quand on lit dans une biographie particulière, parce qu'il y a plusieurs contributeurs dans votre ouvrage, mais il y a un certain nombre de documents. Alors je prends ceux que j'ai sous les yeux, parce que ça montrera à nos auditeurs la richesse des documents. Ici, c'est une lettre d'Alexandre Vialat. Il y a également des extraits d'ouvrages donc de Roger Nimier et puis également de Paul Morand. On voit aussi des photos avec des hommes politiques variés, et puis des photos de table. Si on va Gaston Lenôtre, par exemple, et Paul Bocuse, ils sont en train de trinquer. Donc c'est aussi un voyage dans le deuxième XXe siècle, enfin les années 1950-2000. On a une cinquantaine d'années d'histoire où on voit des évolutions, des auteurs, des gens qui se sont connus, plus ou moins appréciés ou plus ou moins amis. Mais enfin, c'est aussi une tranche de vie de cette scène intellectuelle et littéraire française.
Bien sûr, c'est une photo d'une période alors qu'il y a beaucoup d'admirateurs. Et nous nous rencontrons grâce à Thomas Morales, qui est certainement un des défenseurs les plus brillants de cette génération-là et de cette époque-là. Et c'est vrai que c'était une façon de vivre. Alors, l'époque était terrible, il ne faut quand même pas oublier. On a toujours tendance, quand on prend cette photo, à regarder quelque chose que l'on estime merveilleux. C'était quand même, il y avait la guerre d'Algérie, il y avait quand même beaucoup de problèmes internes, il y avait des rivalités qui étaient très fortes. La Deuxième Guerre mondiale était encore là avec toutes ces terribles blessures. Et c'est vrai que, malgré tout, il y avait une façon de vivre. Alors, la France rentrait dans ses Trente Glorieuses. On avait un appétit de vivre, justement, un appétit d'oublier les terribles moments qu'on avait vécus. Et donc, ça donne un certain charme, donc, et avec des gens qui, justement, avaient de l'appétit de la vie. Et cet appétit de la vie, le montrer en littérature, il le montrait en amour, il le montrait en gastronomie, il le montrait dans tous les arts et dans toutes les lettres.
Vous avez cité Antoine Blondin, qui est un des grands auteurs de l'époque. Alors, lui aussi, il a un parcours intéressant, parce qu'il a écrit beaucoup de chroniques dans le Tour de France, jusqu'à sa mort, d'ailleurs, dans L'Équipe. L'Équipe était un grand journal littéraire et avait des plumes, enfin, des vraies plumes. Ce qui là aussi n'est pas simple d'ailleurs, d'écrire bien des articles sportifs. Ça fait partie aussi de la vie de ces hommes, le sport, alors le vélo pour Antoine Blondin, les voitures également, donc l'idée de la vitesse, du sport, de la vie en plein air également.
Bien sûr, c'était une forme d'élégance, une façon de vivre. C'est-à-dire que, comme vous le savez, Roger Nimier, malheureusement, s'est situé pour un excès de vitesse. Donc, on ne rentrera pas dans les détails que j'ignore de toute façon. Mais c'est vrai qu'ils étaient tous grands amateurs de sport. C'était une époque glorieuse aussi. La France, rappelez-vous un petit peu ce qui se passait. La France découvrait les premiers postes de télévision. On écoutait la radio encore. Donc, on découvrait, donc, Denis Lalanne avait écrit donc, la formidable aventure du 15 de France en Afrique du Sud. C'était les premiers émois lié au tournoi qui était à l'époque des tournois des Cinq Nations. Il y avait donc le Tour de France qui allait devenir légendaire. Il est aussi devenu légendaire grâce aux sportifs, grâce à l'organisation, mais aussi grâce à la plume de Blondin qui a apporté d'une certaine façon ses lettres de noblesse en introduisant la littérature dans un sport qui a priori n'est pas connu pour regrouper beaucoup de polytechniciens, des choses comme ça, mais peu importe, c'est sa noblesse, c'est sa réalité. Et c'est vrai qu'il a... C'était une façon bénie, d'une certaine façon, comme je viens de le dire, d'oublier les instants terribles qu'on avait traversés et donc de reconnaître tout ce que la France avait de merveilleux et donc d'en profiter au maximum et d'en tirer la substantifique moelle.
Il y a d'ailleurs une partie des chroniques d'Antoine Blondin qui ont été publiées récemment. Il y en a une qui m'avait marqué, alors je ne sais plus l'année exacte de l'événement, mais c'est Federico Bahamontes, qui était un des grands cyclistes de l'époque, qui chute terrible parce qu'il perd le tour et il se blesse gravement. Et Blondin raconte ça, on a l'impression de vivre une bataille fabuleuse, parce que c'est la bataille entre Bahamontes et son adversaire de l'époque. Et il a le chic, effectivement, en une page, donc en très ramassé, de donner un côté épique grandiose à un événement qui est très brutal et très concentré.
Bien sûr, bien sûr. Et ils introduisent le lyrisme un petit peu dans notre vie de tous les jours. Et donc, justement, ça permet de nous échapper, de créer un monde formidable et surtout de s'apercevoir qu'au sortir de la guerre, on vit dans une époque quand même malgré tout formidable, qui a quand même des avantages extraordinaires et un monde que l'on peut rendre meilleur nous-mêmes.
Paul Morand, on le voit, enfin, vous avez publié une dédicace de Paul Morand à Christian Millau. Paul Morand, c'est la génération d'avant.
Oui.
Parce qu'il a été, c'était un peu le hussard des années 1920-1930 d'ailleurs, et puis enfin pour le style et la flamboyance, et finalement il s'insère dans cette nouvelle génération, 1950-60, c'est la nouvelle génération qui apparaît, et lui continue aussi sa vie littéraire à cette occasion-là.
Non mais complètement, et vous avez tout à fait raison, parce que les hussards ne sont pas nés vraiment en 1950, les hussards c'est à mon avis une tradition française qui existe depuis bien longtemps, et qui donc, effectivement, à l'époque, dans les années 20, bah, c'était Paul Morand était le chef de file de ceux qui n'étaient pas encore les hussards. Et donc, Paul Morand, grâce notamment à Roger Nimier, va retrouver une seconde jeunesse. Alors, après les épisodes malheureux de la Deuxième Guerre mondiale, il retrouve une deuxième jeunesse qui pourront le conduire jusqu'à l'Académie française. Ça n'a pas été très simple, mais il est arrivé à l'Académie française. Et grâce, justement, à des jeunes auteurs qui avaient le courage de dire « Mais moi, Paul Morand, c'est merveilleux. » Et c'est vrai que lire Paul Morand, c'est extraordinaire. Enfin, ouvrez n'importe quel livre de Paul Morand, que ce soit ses nouvelles, ses romans, c'est juste merveilleux. Le style est éblouissant. Et donc, forcément, on ne pouvait pas le mettre de côté pour des choix qui étaient les siens. Et à la limite chacun est libre de ses choix. Mais c'est vrai que l'écrivain, en tout cas, est un écrivain qui est magnifique et certainement un des tout meilleurs du dernier siècle.
Sur Paul Morand, pour ceux qui aiment la littérature de voyage, notamment, bouquin à rééditer en deux volumes différents, c'est Chroniques de voyage. Alors, il y en a en Amérique, il y en a en Afrique. C'est descendre le Rhône en hydroglisseur, où il a la force, pour une activité assez banale là aussi, d'en faire une épopée merveilleuse. Et c'est vrai que c'est très bien écrit. Et en plus, il a fait des voyages incroyables dans les années 1920-1930. Donc c'est une très belle littérature de voyage que je recommande à nos auditeurs. C'est un style très différent de Kessel, mais c'est un peu la même idée malgré tout, des voyages et des découvertes. Il y a une lettre qui est surprenante, qui est de François Mitterrand, président de la République, le 6 août 1987. Alors, on découvre que François Mitterrand et Christian Millau avaient au moins une correspondance et
bien sûr
étaient en contact.
Ils avaient donc un ami commun, ce qui était Jacques Chardon, qui était donc un écrivain également remarquable et grand ami de Paul Morand. Et c'est vrai que François Mitterrand, qui était un président littéraire, donc qui aimait beaucoup la littérature, avait une passion affichée d'ailleurs pour Jacques Chardon, qui pourtant avait pris des prises de position qui étaient les siennes, donc qui étaient critiquables. Et c'est vrai qu'il y a notamment une anecdote qui ne figure pas dans le livre, si ma mémoire est bonne, mais que Christian m'avait racontée, c'est que François Mitterrand, donc en 1981, quand il attendait encore les résultats de la première élection, donc le 10 mai, présidentielle, pour tromper le temps, et en fait, il a passé sa journée chez un libraire et pour essayer justement de trouver des autographes de Jacques Chardon, des inédits de Jacques Chardon. C'est comme ça qu'il a tué le temps, en attendant effectivement l'annonce d'un résultat qui pour lui a été très positif. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une passion qui les réunissait, et d'une certaine façon, qui est curieux, parce que Chardon est un style, c'est très provincial, d'une certaine façon, le style est remarquable, c'est vraiment, c'est très vieille France, et on a pas forcément l'idée d'associer ça immédiatement à ce que François Mitterrand pouvait penser. Or, finalement, c'est vraiment ce terroir, cette recherche du terroir, on le retrouve également dans les passions de François Mitterrand.
Alors, venons-en au Christian Millau écrivain à proprement parler, puisque vous l'avez dit, à la fin de dernières années de sa vie, il a écrit lui-même, donc avoir été critique, il s'est mis à écrire, ce qui n'est jamais simple de passer d'un à l'autre. Ceci dit, en tant que journaliste, il a toujours été écrivain, mais là, il passe notre forme de littérature ou notre forme d'écrit.
Complètement. Alors, il a commencé par des petits livres, et enfin, petits livres, c'est bien entendu, ce n'est pas péjoratif, avant rapidement de faire Au galop des hussards, qui est en fait un clin d'œil à Roger Nimier, qui lui avait dit dans les années 50, tu devrais écrire notre histoire. Et donc, du coup, il raconte toutes ses rencontres avec Paul Léoto, avec Céline ou avec d'autres grands écrivains. Et donc, ça donnait une certaine façon un réveil à ce mouvement des hussards qui était un petit peu tombé en désuétude. Et grâce à ce titre, qui a reçu le prix de la biographie de l'Académie française, les hussards se sont réveillés une seconde fois, si j'ose dire, comme la Belle au bois dormant. Mais là, visiblement, on fait en sorte qu'ils ne se réendorment pas avant sitôt.
Avec Michel Déon, ils avaient aussi une amitié, une correspondance ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Ils étaient très proches. Et c'est d'ailleurs grâce à Christian que j'ai fait la connaissance de Michel Déon, chez lequel j'ai séjourné plusieurs fois en Irlande. Et c'est vrai qu'il y avait cette connivence. Et notamment, c'est ça qui était assez merveilleux. C'est-à-dire qu'ils s'étaient connus dans les années 55. Il y avait justement ces aventures du côté de Positano et d'Amalfi dans le sud de l'Italie, où ils se retrouvent tous entre amis. Il y a Félicien Marceau, il y a Michel Déon, il y a Christian Millau, donc c'est vrai que c'est cette amitié un petit peu folle. Ils ont tous 20 ans, hein. On a l'impression que ils sont déjà connus, mais ils ont 20-25 ans, mais la vie leur appartient, et donc du coup ils ont cette liberté, cet appétit de découvrir le monde après avoir connu donc la guerre, parce qu'ils ont tous fait la guerre, ou ils ont été prisonniers pour certains, et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il y a cet appétit, cette folie un petit peu, et puis cette envie de vitesse, vous l'avez dit tout à fait, de conduire de belles voitures, d'aimer sans lendemain, de boire beaucoup, on buvait beaucoup, enfin on vivait, on avait ce sorte de passion française, un petit peu, comme les mousquetaires, c'est tous des petits Portos en culotte courte, si j'ose dire.
Et parmi les ouvrages qu'il a publiés, est-ce qu'il y a... Quelle est sa volonté derrière? Est-ce que c'est simplement de laisser un témoignage, comme la biographie de Roger Nimier, ou c'est aussi l'idée de se confronter, finalement, à la littérature, après l'avoir longtemps analysée et suivie?
Ah, je pense qu'effectivement, il y avait une recherche littéraire qui était très, très forte chez lui. Alors, c'est vrai que Pour les écrivains, c'est plus un mémorialiste, puisqu'il a beaucoup travaillé sur les souvenirs, parce que sa vie a été très riche, comme je voulais l'évoquer. Il a fait tourner un film qui n'a pas vu le jour, d'ailleurs, avec Orson Welles à Hong Kong. Enfin, il a vraiment une vie extrêmement riche. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup, s'est beaucoup inspiré de ses souvenirs dans son œuvre littéraire. Mais il y a aussi cette volonté aussi de dire les choses, parce que c'était quelqu'un qui avait justement, grâce à la richesse de sa vie, pouvait analyser. C'était un journaliste, donc il était quelqu'un qui connaissait les événements, qu'il les vivait, qui en connaissait et qui en voyait les conséquences. Et donc, il a aussi pris des positions assez fortes, dit des choses assez vertes dans ses livres, mais qui étaient du bon sens, parce que c'était un homme plein de bon sens, mais qui alertait sur certaines dérives qui sont les nôtres à l'heure actuelle.
Il y a un lieu qu'il a beaucoup fréquenté, qui est le Grand Véfour, un des restaurants les plus célèbres de Paris, des plus anciens aussi. Très beau restaurant dans son décor, dans son magnifique décorum, donc qui est situé... au Palais Royal.
Oui,
c'est un des plus anciens restaurants de Paris encore en activité, avec peut-être le Procope.
Certainement, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que le Grand Véfour, effectivement, accueillait déjà le jeune Bonaparte. Alors, ce n'était pas tout à fait le Grand Véfour à l'époque, si ma mémoire est bonne, mais c'est vrai que c'est un des établissements certainement les plus anciens, en tout cas les plus beaux, parce qu'à l'intérieur, les salles sont absolument merveilleuses. Et Guy Martin, qui tient cet établissement avec tout le génie qui est le sien, effectivement, a pu lui redonner tout ce charme qui était déjà celui que Raymond Oliver, par le passé, lui avait... Et c'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous pouvez, quand vous avez la chance d'y déjeuner, parce que c'est toujours compliqué, vous pouvez déjeuner à la table de Jean Cocteau ou à la table justement que Bonaparte a occupée il y a quelques années. Donc c'est vrai que ça vous donne des arguments pour discuter avec votre convive. Quoi.
Et ça fait partie aussi, c'est devenu un monument national en tant que tel, donc ça montre aussi une continuité historique qu'il y a entre les personnes, les écrivains, les restaurateurs aussi, parce que vous l'avez dit, il y a plusieurs chefs qui se sont succédés à la direction de cette table, donc... Le lieu transcende les personnes et l'histoire.
Ah, bien sûr, bien sûr. Et je souhaite très longue vie au Grand Véfour. Et c'est vrai que Guy Martin, je crois, en assure la direction depuis une trentaine d'années, si ma mémoire est bonne. Et avant lui, Raymond Oliver. Et donc, il y a eu de très, très grands chefs. Et c'est un établissement remarquable. C'est un établissement qui est d'autant plus remarquable qu'il associe donc l'excellence à la française à tout point de vue. C'est-à-dire que l'architecture est merveilleuse. Le cadre, le Palais Royal, est somptueux. L'histoire... puisqu'effectivement, vous avez Jean Cocteau qui est passé par là-bas, Émile Zola ou d'autres, et également donc les mets que vous pouvez y goûter qui sont absolument exceptionnels. Donc c'est vrai que c'est une sorte d'antichambre du paradis pour moi sur Terre. Et donc, il faut que, quand vous pouvez y aller, il ne faut pas hésiter. Après.
Est-ce que, à propos de plats et de mets, est-ce qu'il avait des plats préférés ou des styles de plats préférés?
Alors, j'avoue que j'ai souvent déjeuné et dîné avec lui. Alors, c'est vrai qu'il était toujours très curieux et il avait une façon de sélectionner ses restaurants, d'une certaine façon, de manière assez malicieuse. Alors, notamment, il demandait, alors, je ne suis pas sûr que c'était ses plats préférés, mais il demandait toujours, en entrée, quand il voulait justement goûter ou découvrir un établissement, des langoustines, pour savoir comment les langoustines étaient préparées. Et au dessert, c'était la boule de vanille. Donc, il voulait absolument savoir si, effectivement, il pouvait se donner une idée sur la qualité du restaurant par rapport à la langoustine en entrée, si elle était à la carte, ou à la boule de vanille au dessert. Mais après, il aimait beaucoup de choses. C'était un très bon couteau et une très belle fourchette.
Donc c'est une sorte d'indicateur finalement.
Voilà, c'est ça, oui.
Si le restaurateur arrive à faire bien la boule de vanille, c'est qu'il fait bien le reste.
Voilà, c'est ça. Et il était très calé dans les boules de vanille, alors que moi, honnêtement, j'avoue que j'avale ça de manière assez anonyme, on va dire.
L'autre aspect aussi qui se révèle à la lecture de votre livre, ce sont les amitiés. On a l'impression d'un groupe d'amis qui s'est constitué, puis qui s'est renouvelé aussi, parce qu'il y a des générations qui sont agrégées, donc ça ne tombe jamais dans l'aigreur ou dans la nostalgie, mais une capacité à intégrer de nouvelles personnes et de la manière qu'il y a trouvé des bonnes tables, et des nouvelles bonnes tables, à trouver aussi de nouveaux bons auteurs, de nouveaux bons cuisiniers.
Non, mais c'est ça, et c'est ça tout le charme de la chose, c'est-à-dire qu'effectivement, il aurait pu créer un groupe fermé qui était justement réservé à quelques privilégiés, mais en fait, le groupe était très ouvert, et comme il découvrait de nouveaux restaurants, il découvrait aussi de nouveaux auteurs, et si la personne, selon lui, était douée, parce qu'il fallait quand même être doué et talentueux, à ce moment-là, vous étiez tout à fait admis dans le cercle, et ce n'était pas une question de dire, oui, mais vous êtes trop jeune, vous n'avez pas encore écrit, et ainsi de suite. Non, il prenait tout ce qui pouvait représenter un potentiel pour lui. Donc, c'est vrai que c'était une grande curiosité et donc un certain respect aussi pour les autres, parce que c'est facile de dire aux autres, non, mais on verra dans 30 ans, quand tu auras fait ta carrière, on en reparlera. Mais là, à la limite, les plus jeunes, et il a découvert de très jeunes journalistes, Philibert Hume, qui vient d'avoir le privilège, justement, a été une de ses dernières découvertes, et donc alors que Philibert n'avait pas 20 ans, et il a aidé Philibert à entrer à Paris Match, où il poursuit sa carrière.
Eh bien, merci beaucoup, François Jonker, d'avoir évoqué la vie et la carrière de Christian Millau. J'espère que nos auditeurs auront apprécié et puis découvert aussi cet homme aux facettes multiples. Je rappelle donc l'ouvrage auquel vous avez participé, vous avez dirigé l'ouvrage où il y a de très nombreuses contributions de personnes qui ont connu et vécu avec Christian Millau. Christian Millau, Une vie au galop, portrait croisé, qui est paru aux éditions du Rocher. Comme à chaque fois, les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, revueconflit.com. Et puis également sur notre site internet, notre boutique en ligne. Nous lançons également prochainement des cours de géopolitique réalisés par nos auteurs et par nos experts. Vous aurez donc l'occasion aussi de les découvrir. Nous en parlerons plus abondamment lorsque la plateforme sera ouverte et opérationnelle. Mais ce sera aussi une manière de prolonger vos lectures, vos écoutes par ces cours réalisés par nos spécialistes. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.